Joyeuse Pentecôte à toutes et à tous. La Pentecôte est l'une des fêtes chrétiennes majeures. Et on le sait dans le livre des Actes, Paul nous dit qu'il voulait absolument être à Jérusalem avant pour la Pentecôte. La Pentecôte, pour les premiers croyants, était plus important que Noël. Et c'est vrai que pour nous, Noël est quand même une fête majeure et on voit le renversement. À la Pentecôte, Dieu a répandu son esprit sur les croyants. À partir de ce moment, les disciples comprennent que le messager était le message. C'est-à-dire que Jésus est le message. À partir de ce moment, les croyants qui jusque-là écoutaient, qui jusque-là étaient des auditeurs, à partir de la Pentecôte, ils deviennent des témoins. Les auditeurs deviennent les messagers. Et trop souvent, nous avons tendance à minimiser l'importance de nos paroles. Trop souvent, nous pensons que ce que nous avons à dire n'est pas si important que ça, en fait. Et pourtant, depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur nous, notre message est fondamental. Notre message est crucial. Notre message est vital. Et donc, nous lisons dans Jean 20, les versets 19 à 23. Nous lisons, Grégoire, si tu restes tranquille. Le soir de ce même dimanche, donc le jour de la résurrection, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et donc ce récit-là, j'ai été frappé de voir à quel point les interprétations et les prédications étaient différentes sur ce texte. Toute une partie des églises protestantes utilise ce texte pour parler de la soi-disant Pentecôte johannique, comme si le fait que Jésus souffle sur ses disciples et leur dise « recevez l'Esprit » confirmait qu'il n'y avait ou contestait la Pentecôte que nous trouvons dans Acte 2. Et pourtant, cette première apparition de Jésus à ses disciples les prépare justement pour la Pentecôte qui est à venir. En Genèse 2, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, Dieu souffle la vie. En Ézéchiel 37, nous avons cette fameuse prophétie où le souffle de Dieu vient redonner vie à une armée de cadavres. Ici, en soufflant sur ses disciples lors de la première apparition, Jésus annonce que quelque chose de nouveau commence. Le peuple de Dieu entre dans un nouveau temps. Et ce temps-là est marqué par la présence de l'Esprit. Au contraire, les prédicateurs ou ceux qui font des homélies catholiques ou orthodoxes utilisent ce texte pour le sacrement de la confession. voyez, quand vous êtes membre d'une église catholique ou orthodoxe, vous pouvez, de temps à autre, vous rendre à l'église dans un confessionnal où vous confessez vos péchés. Et à la fin, le prêtre dit « Tes péchés sont pardonnés, point. » Et donc, dans ce sacrement de la confession, qui s'appuie sur cette dernière phrase, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ils estiment que la parole du prêtre accomplit le pardon ou le rend possible dans la vie des gens. Soulignons quand même ici, et c'est quand même intéressant, l'absence de Thomas. Thomas est absent, et cette absence est significative parce qu'elle montre bien que ce que Jésus offre à ce moment-là aux disciples ne se limite pas aux apôtres. D'ailleurs, on pense que les disciples d'Emmaüs devaient également être présents, vu que ce texte rapproche quand même pas mal de Luc 24, qui est justement au soir de la résurrection et où Jésus commence également en disant que la paix soit avec vous. Et dans un autre sens, une position un peu plus évangélique, on remarque un peu le malaise. Et c'est marrant, plusieurs prédicateurs, dont la vidéo était intitulée « Prédication ou serment sur Jean 20, 19 à 23 », se mettent à prêcher sur l'absence de Thomas. Alors que l'absence de Thomas est signalée uniquement à partir du verset 24. Le malaise, c'est que Jésus ici transmet une autorité à ses disciples. Et si on est très pointilleux, c'est vrai que là, il y a une petite tension avec notre façon de concevoir le salut et l'Église. On a une légère tendance à minimiser l'autorité que Jésus transmet à ses disciples. Mais du coup, pour bien comprendre la tension de ce texte, il nous faut comprendre que la parole de Dieu est performative. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, cette chose advient. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Point. Lorsque Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre », l'être humain remplit la terre. Lorsque Dieu dit à l'homme « C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain », alors le travail devient fatigant. Lorsque Dieu dit à Caïn « Tu seras errant et vagabond », Caïn devient errant et vagabond. Lorsque Dieu appelle au milieu du buisson ardent Moïse, Moïse, Moïse se tourne et vient. Et de la même façon, lorsque la main de Dieu écrit sur les murs du palais de Babylone « Mene, mene, tekel, parsine », la nuit même, la superpuissance de l'époque, l'empire de Babylone tombe. Son royaume est divisé et son roi Belshazzar est mis à mort. Lorsque Dieu parle, la chose advient. On a ce fameux texte en Ésaïe 55 qui nous dit « Il en va de même pour ma parole », donc c'est Dieu qui parle, « celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Lorsque Dieu parle, la chose se fait. Là où c'est intéressant, c'est que le Nouveau Testament présente également Jésus avec une parole performative. lorsque Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », le paralytique se lève, prend son lit et marche. Lorsque Jésus dit à un lépreux « Je le veux, sois pur », instantanément, le lépreux est purifié. Lorsque Jésus parle à un sourd-muet et qui lui dit « Ouvre-toi », instantanément, le sourd-muet est guéri. Et ça va même plus loin. Lorsque Jésus parle à la tempête et lui dit « Silence, tais-toi », instantanément, la tempête se calme. Et lorsque Jésus, apercevant ce figuier pour lequel il n'est pas content, il lui dit que jamais plus personne ne mange de ton fruit, le figuier dessèche. La parole de Jésus est également performative sur les démons. Lorsque Jésus dit « tais-toi » et sort de lui, le démon se tait et sort de la personne. Et il en va de même avec la vie. Lorsque Jésus dit à cette jeune fille décédée « Talita cum », c'est-à-dire « jeune fille, lève-toi », la jeune fille se lève et vit. Ou encore plus fort, à Lazare, on ouvre la pierre et Jésus crie dans le tombeau « Lazare, sors !» Et Lazare sort. Et à ce même paralytique à qui Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », lorsque Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés », les péchés de ce paralytique sont effectivement pardonnés. Ou lorsqu'il dit à la femme pécheresse « Tes péchés sont remis », celle-ci a l'assurance que ses péchés sont pardonnés. Et on le voit même, cette parole de Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses disciples pour les appeler. Il va vers Pierre, André ou Marc et il leur dit « Suis-moi ». Et il nous est dit « Pierre, prends son filet, pose son filet et suis Jésus ». Lorsque Jésus parle, la réalité est façonnée selon ce qu'il a dit. La parole de Jésus produit ce qu'il dit. Et donc c'est intéressant pour nous parce que lorsque Jésus s'avance au milieu de ses disciples et leur dit « Que la paix soit avec vous », il ne s'agit pas d'une salutation, il ne s'agit pas d'un souhait. Mais immédiatement, ses disciples sont dans la paix. Immédiatement, la peur s'arrête. Elle s'arrête peut-être un peu trop parce qu'il nous est dit que les disciples sont remplis de joie, peut-être une joie un peu trop enthousiaste, un peu trop d'enthousiasme. Et donc Jésus dit une deuxième fois « Que la paix soit avec vous ». Lorsque Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez mon esprit », les disciples reçoivent son esprit. Et lorsque Jésus dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus », alors cette parole devient vraie pour les disciples. Et en somme, toute la question ici, c'est la portée de l'autorité que Jésus transmet à ses disciples. Ou pour le dire comme ça, est-ce qu'à partir de ce moment, la parole des disciples devient performative pour annoncer le pardon des péchés, ou est-ce qu'elle est juste déclarative? Et c'est vrai que si je vous lis la théorie sur un passage qui, qui est à lire avec Matthieu 16, 23 et puis Matthieu 18, 18. L'autorité ici, la théorie, c'est que l'autorité accordée demeure déclarative et non créatrice. Bien que Jean 20, 23 emploie des passifs parfaits, donc ce qu'on appelle des passifs divins, c'est-à-dire que la personne qui est pardonnée et la personne dont le péché est retenu sont passifs. Ce n'est pas eux qui font l'action. L'Église, donc, peut affirmer avec assurance que le péché d'une personne est pardonné si elle a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, satisfaisant ainsi les conditions du pardon divin, ou qu'il reste lié ou si elle refuse de recevoir le Christ. L'autorité de l'Église ne trouve pas sa source en elle-même, mais dans la parole de Dieu qui lui permet de déclarer avec autorité ce que Dieu a déjà déterminé, plutôt que de créer ou de médier le pardon de manière autonome. Donc là, vous avez un peu la tension. Dans une perspective plus catholique ou orthodoxe, c'est vrai que quand le prêtre dit « Mon fils ou ma fille, tes péchés sont pardonnés », cette parole produit du pardon. Alors que dans notre interprétation de ce passage, cette autorité est plus déclarative, c'est-à-dire qu'on déclare le pardon que Dieu accorde. Mais là, je dois vous avouer qu'il y a une petite tension. Il y a une petite tension. Parce que je comprends bien cette théorie sur cette autorité déclarative, cette autorité qu'on peut déclarer. Mais je ne suis pas totalement convaincu. Mais je la comprends. Mais pour résoudre cette tension, je crois qu'il y a une façon très simple de procéder. C'est de regarder aux deux exemples de Jésus qui pardonne les péchés. Le premier, c'est dans Luc 7. C'est cette femme pécheresse. Donc, elle apporte un vase plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les embrassa et versa du parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait été invité vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait que celle qui le touche est de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Et plus tard, Jésus dit à cette même femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Et le deuxième récit, c'est le récit de cet homme paralytique qu'on trouve notamment en Matthieu 9. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées et dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même » Dans ces deux récits, lorsque Jésus annonce le pardon à quelqu'un qu'il rencontre, les deux fois, c'est la foi qui est l'élément déclencheur. Dans ces deux récits, c'est lorsque Jésus discerne la foi de cette femme pécheresse et de cet homme paralytique que Jésus décide d'affirmer le pardon des péchés. Et dans les deux récits, les spécialistes, les religieux, les experts qui entendent ces paroles sont scandalisés. Que fait Jésus ? Seul Dieu peut pardonner. Et c'est là, en fait, toute la beauté de ce que Dieu transmet à partir de la Pentecôte aux croyants. Le croyant peut affirmer de manière déclarative ou performative, on s'en fiche. Le pardon de Dieu lorsqu'il discerne la foi. Vous imaginez la puissance de l'autorité que Jésus transmet à ses disciples. Lorsque nous, en tant que croyants, nous discernons une foi vivante et authentique en Jésus-Christ, nous avons l'autorité, parce que nous avons été remplis du Saint-Esprit, d'annoncer le pardon de Dieu. Et je crois que nous ne réalisons pas la portée de cette autorité. Lorsque je croise quelqu'un, je peux lui dire, en voyant sa foi, tes péchés sont pardonnés. La Pentecôte est indissociable du message. Jésus le dit dans Jean, lorsque vous recevrez l'Esprit et que vous serez convoqué face à un tribunal qui voudra vous juger à cause de votre foi, ne préparez pas ce que vous aurez à dire, parce que l'Esprit vous conduira, l'Esprit vous inspirera. En acte 2, lorsque les disciples sont remplis de l'Esprit, ils se mettent à annoncer les merveilles de Dieu dans des langues multiples. Ici, dans Jean 20, juste après avoir soufflé sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit », il leur dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Nous sommes toutes et tous, par la foi, remplis de l'Esprit et par la puissance de l'Esprit, nous pouvons annoncer l'Évangile de Dieu. Trop souvent, nous avons tendance à minimiser la portée de nos paroles. Bien trop souvent, nous pensons que ce que nous avons à dire est sans importance. Ça ne sert à rien de le dire. Et pourtant, nous avons été remplis du Saint-Esprit. La semaine dernière, je faisais une blague dans la discussion au café théologique sur la prière et j'ai posé une question un peu rhétorique, mais c'est possible de prier dans son cœur ? Alors, bien sûr, bien entendu que c'est possible de prier dans son cœur. Et pourtant, je crois que prier à haute voix est absolument crucial. Et que prier dans son cœur, même lorsque l'on est tout seul, ne remplacera jamais une prière à haute voix. Parce qu'une prière formulée est une prière qui est posée. Alors, ce n'est pas une formule magique. Mais Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a une relation entre la foi et la parole, et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager à prier à haute voix. Parce que vous avez été remplis de l'Esprit. Et même au culte, lorsque nous prenons un temps de prière libre, et même si nous ne sommes pas tous remplis de la même sagesse ou connaissance, nous sommes toutes et tous remplis du même esprit. Et ta prière enrichit l'Église. Ta prière nourrit l'Église. Ta prière peut bénir l'Église. Vous savez, c'est la même chose, c'est comme lire dans sa tête. Vous savez que c'est assez tardif de lire dans sa tête. Au temps de Jésus, ça ne se faisait pas de lire dans sa tête. On lisait toujours à haute voix, ou en tout cas en chuchotant. Alors, il y a toute une histoire mythologique sur quand est-ce que lire dans sa tête est apparu. Il semblerait que c'était des moines qui... Voilà. Mais de nouveau, même lorsque vous êtes seul chez vous, et même si vous ne criez pas, mais que vous chuchotez, je vous encourage à lire votre Bible à haute voix. Non pas parce que ce soit une formule magique et puis que si vous la lisez à haute voix, forcément toute la souffrance va disparaître de votre vie et toutes les bénédictions de la Bible vont d'un coup se matérialiser. Mais je crois que de poser des mots nous nourrit différemment. Nous avons besoin d'entendre. Et de la même façon, j'ai déjà entendu parler de louer dans son cœur. Ah, j'ai pas besoin de chanter, je loue juste dans mon cœur. Et à nouveau, j'aimerais vous encourager à louer à haute voix. Même si votre voix ressemble un peu à la mienne et pas très mélodieuse, pas très juste, mais j'ai la conviction que nos paroles ont du poids et que lorsque nous parlons, lorsque nous formulons la bonté de Dieu, lorsque nous formulons la grandeur, la grâce, la joie de notre Seigneur, nous nous nourrissons différemment. Et ces paroles prennent une place différente dans notre quotidien. Osons poser des paroles de bénédiction. Alors, il y aura tout un débat pour savoir à qui est-ce que Jésus offre cette autorité. Comme vous l'avez compris, pour moi, l'absence de Thomas est significative. Comme Thomas n'est pas là, Jésus ne le transmet pas juste aux 12 apôtres et donc au clergé. Mais nous tous, chaque croyant rempli de l'Esprit, reçoit de Jésus cette autorité de poser des paroles de bénédiction. Alors, lorsque nous discernons la foi, c'est « tes péchés sont pardonnés » parce que nous savons que par la foi, nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais il existe bien d'autres paroles de bénédiction. Et j'aimerais nous encourager à que nous soyons une communauté où nous formulions des bénédictions divines les uns pour les autres. Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu habite son Église, habite les croyants. Nous sommes toutes et tous les temples du Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, notre parole a de l'importance. Notre parole a du poids. Et donc j'aimerais conclure là-dessus. Vous mettre en garde, parce que nous formulons quand même plein de paroles inutiles tout au long de la journée. Veillons aux paroles qui sortent de notre bouche. Et au contraire, lorsqu'il s'agit de paroles de bénédiction, de paroles de vie, ne les minimisons pas, ne les limitons pas. Parce que depuis que l'Esprit a été répandu sur nous, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette puissance, hein, cette grande théorie sur cette exousia qui a été donnée en acte 2, pour moi, c'est de pouvoir annoncer ces paroles de vie, des paroles qui relèvent, des paroles qui transforment, des paroles qui brisent la honte et la culpabilité. Parce que Christ s'est donné entièrement pour nous. Alors je vous envoie avec cet encouragement très encouragé. Usez de votre bouche, de votre langue, pour annoncer l'Évangile et ses paroles de vie. Amen.